La vertu triomphante dans les fers. Nous allons voir dans cette lecture combien le roi Louis IX, roi de France, a pratiqué la vertu malgré tous les obstacles qu'il rencontrait. Ceci pour aider à comprendre pour nous-mêmes que si nous voulons, nous pouvons pratiquer la vertu malgré les vents et marées qui sont contre nous. Après s'être signalé par des prodiges de valeur et avoir conquis une partie de la Terre Sainte qu'il voulait soustraire aux joug des infidèles, Louis IX, roi de France, eut la douleur de voir périr presque toute son armée. Il tomba lui-même entre les mains des barbares avec ses deux frères, les comtes de Poitiers et d'Anjou. N'y a-t-il pas raison de se décourager? Eh bien non, il ne s'est pas découragé. Il fut conduit et emprisonné à la Massoure. Pendant sa détention, il ne manqua point de réciter l'office chaque jour aux heures ordinaires et s'acquitter de tous les devoirs de la religion en présence des infidèles. Il conservait sa foi fermement au milieu des infidèles et des grandes épreuves. Et les infidèles étaient confondus par sa piété. Ils ne se lassaient pas d'admirer sa tranquillité, sa douceur, sa patience, sa fermeté à rejeter les propositions qu'ils ne jugeaient pas raisonnables. Pourquoi était-il tranquille? Parce qu'il vivait avec Dieu. Il était uni à Jésus-Christ vivant en lui. Et il transmettait la douceur de Jésus. Et bien sûr, étant uni à Jésus, il ne pouvait que rejeter les propositions qu'il jugeait pas raisonnables. Contre la foi, contre les mœurs, contre la charité. Alors, on va dire, c'était un saint, oui, bien sûr, nous ne pouvons pas atteindre son sommet. Mais les saints sont là pour nous entraîner, pour nous montrer le chemin. Nous te tenons captifs, lui disaient-ils, les infidèles, et tu nous traites comme si nous étions nous-mêmes dans tes fers. Les émirs, se regardant les uns les autres, disaient que c'était le plus fier chrétien qu'ils eussent vu. Le Soudan lui ayant fait demander, avec menace, de lui rendre, outre Damiette, toutes les places qui restaient aux chrétiens dans la Palestine, il consentit pour Damiette qui n'était pas en état de se défendre. Mais quant aux autres places de la Terre Sainte, il répondit qu'elles ne lui appartenaient pas et que cet article ne le regardait point. Donc, il ne n'outrepassait pas ses droits pour avoir de la gloire. On le menaça des bernicles, c'est-à-dire de lui écraser tous les os entre deux pièces de bois. Quelle horreur! Il repartit froidement qu'il était leur prisonnier et qu'ils pouvaient faire de lui ce qu'ils voudraient. Le voyant inaccessible à la crainte, le Soudan, lui fit demander la restitution de Damiette et 1 million de besans d'or, valant alors 500 000 livres, monnaie de France, et qui vaudrait aujourd'hui plus de 7 millions, tant pour sa rançon que pour les frais de la guerre. « J'accorde volontiers, répondit-il, la somme qu'on me demande pour mes sujets. Mais il est indigne pour ma personne d'être mise à prix d'argent. Je rendrai pour elle la ville de Damiette. » Le sultan, ayant reçu cette réponse, s'écria plein d'admiration. « Par ma foi, ce Français est aussi grand dans les fers que dans les armes à la main. Je lui remets 100 000 livres, il n'en paiera que 400 000. » Le traité fut conclu à ces conditions. Mais le Soudan, ayant été assassiné par ses émirs en allant prendre possession de Damiette, le saint roi eut tout à souffrir de leur brutalité, et se vit 20 fois au moment d'en être la victime. Un de ses émirs, les mains et l'épée encore fumantes du sang de son maître, l'aborda et lui dit « Que me donneras-tu pour avoir tué ton ennemi, qui t'eût fait mourir s'il eût vécu ?» Louis détourna la tête avec indignation sans lui répondre. Le furieux, levant le fer, est prêt à frapper. « Fais-moi chevalier ou je te tue !» Le roi répondit sans s'émouvoir, que jamais il ne ferait chevalier un infidèle. Cette fermeté d'âme désarma tous ses forcenés. Ils baissèrent les yeux et la tête, et, les mains croisées sur la poitrine, ils saluèrent le roi à leur manière et lui dirent avec respect. « Ne craignez rien, Seigneur, vous êtes en sûreté. » Mais ce respect était un respect de serpent, un faux respect, un respect qui était tout égoïste, tout centré sur les biens qu'ils pouvaient en recevoir de ce respect. Ils mirent même en délibération de le faire soudain. La résolution ne fut arrêtée que par les plus politiques d'entre eux, qui pensèrent avoir tout à craindre pour leur religion d'un prince aussi pieux que Louis. On ratifia de nouveau les articles déjà signés. Il ne manquait plus que d'en jurer l'observance. Mais les émirs, exigeant du roi un serment qu'il ne crut pouvoir faire, à cause des imprécations dont il était rempli, il y eut un moment où toute la négociation fut rompue et où Louis pensa être mis à mort avec tous les prisonniers. « À Dieu ne plaise, dit-il, quoi qu'il en puisse arriver, que de telles paroles sortent jamais de la bouche d'un roi de France. » Puis, s'adressant au Sarrasin que les émirs avaient chargé de recevoir le serment, il lui dit « Allez dire à vos maîtres qu'ils en peuvent faire à leur volonté et que j'aime mieux mourir bon chrétien que de vivre au courroux de Dieu. » Les émirs, outrés de colère, vinrent, l'épée à la main, dans sa tente pour le forcer au serment ou le massacrer. Louis répondit tranquillement que Dieu les avait rendus maîtres de son corps, mais que son âme était entre ses mains et qu'il ne pouvait rien sur elle. Il fut impossible de l'ébranler. Il persista toujours à refuser un serment qu'il regardait comme un horrible blasphème. Enfin, les émirs n'insistèrent plus. Le traité fut conclu et le roi eut la liberté de retourner en France après avoir passé un mois entier dans une captivité qui fut plus glorieuse pour lui et pour la religion que toutes les victoires qu'il avait remportées sur les infidèles.